Écoutons.
Merci. Ce n'est qu'après la publication de notre dossier sur le contre-transfert en avril 2017 que j'ai constaté que j'avais choisi pour cet article, sans le savoir à l'époque, le même intitulé que celui d'un livre publié chez l'Harmattan en 2013 sous la direction de Martine Reka, et qui portait sur la figure d'Enrique Racker. Cet ouvrage ne figure d'ailleurs pas dans notre liste bibliographique, c'est un peu dommage. Bien sûr, comme on vous l'a dit, la liste des références n'est pas exhaustive, elle est seulement le résultat de nos lectures dans ce groupe, mais c'est vrai que cette absence apparaît aujourd'hui pour moi comme un peu regrettable. Pourtant, Philippe Chauscourt nous avait signalé plusieurs fois cet auteur. D'ailleurs, il le cite à plusieurs reprises dans son propre article. Et nous, ou plutôt, je devrais dire je, en tant qu'animatrice du groupe ARAP, je n'ai pas à ce moment-là ombrayé sur cette lecture. Je veux juste vous dire que Racker est un psychanalyste argentin qui a une certaine importance par rapport à la question du contre-transfert. En effet, il a de manière concomitante, mais semble-t-il indépendante du travail de Paula Eman, prononcé en 1948 une conférence intitulée « La névrose de contre-transfert ». C'est un psychanalyste qui est mort très jeune. Il est né en 1910 en Pologne et mort en 1961 à Buenos Aires, et qui, selon les auteurs de ce livre, a consacré l'essentiel de sa vie professionnelle à l'étude systématisée du contre-transfert, identifiant avec une acuité clinique exceptionnelle sa force performative dans l'agirène transférentiel et sa puissance transformatrice dans les cures. Je cite ici un extrait de l'introduction de cet ouvrage écrite par Martine Reka. Les travaux de Racker sont, semble-t-il, assez méconnus des praticiens français, d'où l'importance de cette publication où la notion telle que Racker la conçoit est très bien explicitée dans un chapitre. J'en viens à mon article. Que puis-je partager avec vous ce matin? Sans doute une toute petite partie de ce que j'ai tenté de rassembler comme idée, vu le temps imparti. J'ai plutôt choisi de parler du texte aujourd'hui, en espérant vous donner envie de le lire dans le détail, si vous ne l'avez pas lu. Je dirais qu'il s'agit d'un texte théorique, ou plutôt théorisant, si vous préférez. Je veux dire qu'il ne contient pas d'exemple clinique, à proprement parler, bien qu'il évoque assez concrètement, je crois, ma manière clinique d'animer ce type de groupe. Je crois que c'est ma partie chercheur qui est au premier plan dans l'écriture de cet article. J'en vois une preuve dans le fait que je n'ai pas renoncé à faire ce que j'ai appelé un détour méthodologique, auquel je tiens beaucoup. Je veux dire, j'ai dû beaucoup couper de paragraphes pour la publication de cet article en février dernier, mais je n'ai pas coupé celui-là. Il faut dire que j'y avais renoncé à de nombreuses reprises dans des articles précédents, toujours pour des questions de longueur de texte. Un détour méthodologique où j'évoque la question des traces qui seraient ou ne seraient pas nécessaires pour pouvoir évoquer sur le plan de la recherche ce qui se passe dans le fonctionnement psychique de l'animateur ou l'animatrice en séance. À ce propos, mon texte pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, à la manière de Bion. J'y rappelle justement les préconisations de cet auteur qui propose, j'insiste, ces préconisations sont adressées aux analystes en séance, et puis je crois qu'il faut faire très attention aux formulations distordues lorsqu'on les extirpe de leur contexte, mais je reprends néanmoins la proposition de Bion de congédier désir et mémoire en indiquant le sens que je donne à cet énoncé, qui ne peut être qu'une recommandation asymptotique. Dans mon article, j'évoque les différentes manières de faire que j'ai utilisées en termes de prise de notes ou non après les séances, Et je laisse en suspens la question de la supervision, qui pourtant me paraîtrait aujourd'hui très utile à traiter dans un article à part entière. D'ailleurs, nous avons, il y a un certain temps maintenant, pour ne pas dire un temps certain, enregistré avec le consentement des participants deux séances de supervision au sein du Master FIAP que nous avions animées à Nanterre avec Bernard Pechberti et à l'étude de desquelles nous ne nous sommes pas attelés, en tout cas pour en écrire quelque chose véritablement. Je crois qu'avec le recul du temps, ce travail deviendra plus faisable, je pourrais dire, dans la mesure où les personnes dont on a recueilli les verbatims, y compris nous, les animateurs, sont devenues, avec le fil du temps, des sortes de personnages, et nous pourrons sans doute davantage réfléchir, avec davantage de sérénité en tout cas, réfléchir à notre fonctionnement en relisant ces verbatims de séance. Une petite parenthèse à ce sujet. Quand je relisais ces enregistrements à l'époque, je le note dans l'article d'ailleurs, j'avais honte de ce que je considérais comme une forme de pauvreté du verbatim. Je dois dire que tout le travail mené depuis lors, notamment dans ce groupe ARAP, m'a bien fait saisir que, selon l'expression de Bion, ces débris de discours structurés sont normaux, car dans ce style d'interaction au sein d'un groupe clinique, il s'agit de s'adresser au psychisme. Du coup, j'ai compris que les paroles prononcées ne restituent qu'un pâle reflet des processus émotionnels qui sont en jeu au sein des séances, et je l'accepte à partir de l'idée que le langage qui est utile pour moi dans ces échanges n'est pas, comme le disait Balint, le langage des adultes. Il s'agit de toucher les participants à des niveaux quelquefois pré-œdipiens où le langage n'a pas cours dans sa forme secondarisée. Il faut trouver un mode de communication infraverbal. Les processus interactifs psychiques qui sont situés en deçà du langage et qui mettent le plus souvent en correspondance des zones psychiques de l'analyste et du participant relèvent de l'avant-langage, de ce que Balint appelait, lui, la zone du défaut fondamental, ou de ce que de Musan appelle le registre du vital identital, c'est-à-dire se situe en deçà du registre psychosexuel, en deçà de ce que de Musan ou Laplanche appellent le sexuel. Et comme je l'écris dans ce texte, pour moi, je crois qu'il y a quelque chose de quasi naturel aujourd'hui à pouvoir me situer dans ces zones-là en séance. De ce fait, il n'y a plus à s'étonner que la retranscription, le verbatim, ne reflète pas ces processus ou un discours qui ait l'air de se tenir. Je ne résiste pas à l'envie de vous proposer ici une nouvelle formulation de Bion à propos de cette attitude qu'il préconise pour l'analyste et qu'on résume souvent dans la formule « sans mémoire et sans désir ». Dans le texte, j'ai proposé la traduction qu'en fait Monica Horowitz et qui me semble très éclairante, mais voici ce que Bion écrit lui-même dans son ouvrage « Bion à New York et à Sao Paulo ». Débarrassez-vous de vos souvenirs, débarrassez-vous de la tension de votre désir, c'est une traduction, oubliez-les tous les deux à la fois, ce que vous saviez, ce que vous voulez, et faites de la place pour une idée nouvelle. Il se peut qu'une pensée, une idée errante circule dans la pièce à la recherche d'une demeure. Ça, c'est une idée très familière à Bion. Parmi ces idées, il se peut qu'il y en ait une qui soit à vous, remontée du fin fond de vos viscères, ou une qui provienne du dehors, c'est-à-dire du patient. Ce sont des propositions qui sont très parlantes pour moi. Ma partie praticienne s'exprime aussi dans cet article par le fait que j'ai tenté à plusieurs reprises de m'efforcer de passer outre les difficultés qu'il y a à ouvrir cette sorte de boîte noire. Tiens, il manque une page dans mon exposé. Ça, c'est fort, hein? Il manque la page 11. Ah non, mais c'est vrai.
Je confirme.
Tu confirmes. Alors, c'est très intéressant. Ah, cette sorte de boîte noire. Que constitue notre pratique experte. Au passage, je voudrais dire que ce qui m'a le plus appris en la matière, je crois, ce sont les co-animations que j'ai conduites, de nombreuses co-animations avec beaucoup de personnes qui sont ici. Lorsque, par exemple, et en ce moment, c'est avec Sophie Lerner que je co-anime, comme Philippe l'a rappelé tout à l'heure, un groupe de musiciens, d'étudiants musiciens, quand il arrive à mon co-animateur ou à ma co-animatrice de m'interroger dans l'après-coup de la séance, lorsque nous élaborons ensemble à partir de ce que nous avons compris de ce qui s'est passé, lorsqu'on m'interroge sur un moment où, sans le décider de manière volontariste, j'ai énoncé ou fait quelque chose en séance que je ne sais plus avoir fait ou que je sais seulement confusément. Par exemple, m'adresser à un tel ou à une telle, avoir formulé un énoncé de telle ou telle manière. Ces interrogations ont toujours été extrêmement productives pour moi de compréhension nouvelle de ce que recouvre cette censée expertise, faite d'une accumulation longue d'expérience et pas entièrement théorisée dans tous ses méandres. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu tenter d'éclairer dans cet article. Sans savoir si j'y ai réussi, sans doute en partie, pouvoir appréhender et nommer les processus qui sous-tendent mon fonctionnement psychique quand je conduis un groupe clinique d'analyse des pratiques ou de supervision, en allant un peu au-delà de ce que j'appelais jusqu'ici de manière un peu floue ou fétichisée, si j'ose dire, mes mouvements contre-transférentiels. Une petite remarque au passage, on peut toujours tenter de raconter, théoriser, écrire ce qui se passe dans une séance. Cela échappe, ou en tout cas, cela ne fait pas sens tant qu'on n'a pas vécu une expérience propre proche du même genre. Car il s'agit ici d'une connaissance de type phénoménologique en termes de vécu de l'expérience. Dans l'article, j'écris d'ailleurs que les personnes qui fréquentent mes groupes, après quelque temps de travail, alors qu'elles pensaient en arrivant bien se représenter ce qui allait s'y passer, à partir de ce que je leur en avais dit et à partir de la lecture de mes nombreux écrits, disent toutes ou presque qu'elles ont été très étonnées de se rendre compte que leur représentation préalable était assez éloignée de ce qu'elles vivent maintenant. Au-delà de la question de la possibilité de restituer par l'écriture le vécu des séances, ce phénomène a sûrement à voir avec la distinction que propose Jeannine Puget entre représentation et présentation et sa notion d'effet de présence, qui rejoint d'ailleurs ce qu'énonce Bion aussi quand il écrit « Je ne peux pas décrire ce qu'est une personne, mais je suis sûr que cela existe. » Et je suis sûre qu'il ne suffit pas de décrire ce qui se présente à mes yeux, à mes oreilles, et même ce qui aurait pu être enregistré sur une vidéocassette. Cela serait trop frustre. Il y a quelque chose de plus dans la pièce. Ce à quoi il ajoute, il y a quelque chose de plus que ce qu'un ordinateur peut traiter. Le nourrisson sait ce que c'est que d'avoir des émotions violentes, des choses auxquelles nous donnons des noms frustres comme peur, dépression, amour, haine, mais il ne sait pas comment les nommer. Au moment où il maîtrise le discours structuré, il oublie ce que c'est que de se sentir un nourrisson. Alors nous qui avons atteint le stade du discours structuré, nous avons presque oublié ce que c'est de se sentir un être humain. Si j'en reviens au thème qui nous occupe aujourd'hui et qui m'a occupé dans cet article, je tiens à souligner que je souscris à la mise en garde de Bion que j'ai citée en exergue du texte, le contre-transfert est inconscient. Je pourrais vous faire partager nombre d'énoncés de cette conférence à New York qui m'a beaucoup inspirée au moment où j'écrivais ce texte, parce que la découverte et la lecture de cette publication que j'ai faite en 2007 sont très liées pour moi à cette écriture. C'est le moment où la publication a été traduite en français chez Ithaque, mais le texte Bion à New York a été publié en 77, 2 ans avant la mort de Bion, et d'après ce qu'écrit sa femme dans l'introduction, il a revu le texte. Il écrit « Les gens parlent d'utiliser leur contre-transfert, or ils ne peuvent rien utiliser du tout parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ce qui existe, c'est ma réaction émotionnelle au patient. C'est donc un fait que je dois accepter, que le contre-transfert est inconscient, et donc mieux me rendre compte que je ne peux rien tirer de ces éléments-là, à moins d'aller moi-même chez un analyste et de les traiter. Il s'agit de parer au mieux un mauvais coup. Il arrive que ce mauvais coup, ce soit moi. Je ne peux pas être complètement analysée, je ne pense pas que ce soit possible. Il faut bien s'arrêter un jour ou l'autre. Après quoi, on fait au mieux avec ce qu'on est. J'adore. Ou encore, dès que vous considérez la question après coup, vous pouvez décider que votre réaction a été de celles qui sont susceptibles de tomber dans la catégorie du contre-transfert. Vous avez alors l'occasion d'apprendre quelque chose sur vous. C'est un des avantages en nature du fait d'être analyste. Si j'en reviens à mon propre article, et ce sur quoi je m'interroge en particulier dans ce texte, je vous dirai que j'ai voulu revenir à ce que proposait Balint en 1957, en essayant de reprendre ses formulations précises dans la langue originale, assorties des traductions que nous connaissons en français. J'ai voulu aussi mettre l'accent sur la redécouverte qu'a fait Pierre de Lyon en 2007 dans son article de l'effet Balint, qu'il appelle d'ailleurs la fonction Balint, pour faire un lien avec ce qui était dit tout à l'heure. J'ai voulu aussi dans cet article situer mon dispositif, celui que je propose depuis un certain nombre d'années, dans la ligne des dispositifs décrits comme cliniques par René Roussillon dans son manuel de la pratique clinique paru en 2012. C'est une publication qui pour moi a fait date aussi, un ouvrage que je trouve, à l'instar de ce qu'en écrit Anne Brun, un excellent support pour défendre aujourd'hui nos dispositifs cliniques et faire comprendre ce que signifie leur orientation psychanalytique. Surtout, c'est à partir de ce moment, de cette lecture, que j'ai pu à mon tour décrire de manière décisive à mes yeux la distinction que nous avons à soutenir par rapport en particulier à nos collègues des sciences de l'éducation, fervents supporters de la réflexivité, la distinction, sinon la rupture qu'introduit justement la dimension du psychisme inconscient dans cette notion de réflexivité. Car comme l'écrit Roussillon, conscience et réflexivité ne peuvent plus être superposées. Nos processus psychiques sont réflexifs, mais cette réflexivité n'est pas nécessairement consciente d'elle-même, c'est le paradoxe essentiel de la réalité psychique. Je vous engage à méditer sur cette réflexion, parce qu'on a beaucoup à faire pour communiquer cela à nos collègues proches des sciences de l'éducation, qui sont tout à fait légitimement partie prenante de la réflexivité des praticiens. Mais nous ne parlons pas de la même réflexivité. De même, j'ai voulu situer mon dispositif dans la perspective des dispositifs à médiation soutenus par nos collègues de Lyon 2, Roussillon, Anne Brun, Claudine Vacheret, Bernard Duès, que je cite dans le texte. Mais depuis l'écriture par Arnaud Dubois de sa note de synthèse pour son habilitation à diriger des recherches, il va nous falloir poursuivre le débat sur la question. Peut-on considérer, comme je le soutiens, que le récit oral d'un moment professionnel peut être considéré comme un médium malléable dans la mesure où il ne s'agit pas d'un objet concret matériel comme peuvent l'être une photographie, peut-être un texte écrit comme tu le soutiens Arnaud. J'ai tenté d'explorer aussi dans ce texte la manière dont on pourrait décrire cet état psychique du clinicien en séance. C'est le plus difficile pour moi. S'agit-il de refoulement au sens où je l'analyse avec Sophie de Mijola-Mellor dans le texte? S'agit-il d'une résonance préconsciente entre les psychismes? S'agit-il de prêter son appareil psychique? S'agit-il quelquefois de contre-attitude enquistée? J'ai repris la notion de contre-attitude telle qu'Evelyne Questenberg la distingue de la notion de contre-transfert. S'agit-il de défléchir l'émotion transférentielle qui sont adressées à l'animatrice sur le travail, comme je le prétends? Ce sont toutes ces propositions que j'ai tenté de présenter et de discuter dans l'article. Aujourd'hui, je crois que je tendrai plutôt à parler de chant, à la suite d'Antonino Ferro et de Claudio Neri, et j'ai envie de décrire l'appareil psychique du clinicien, de l'animateur, de l'animatrice, comme l'une des variables de ce chant. Enfin, j'aimerais vous dire que je crois que j'aurais aimé dans cet article faire une place plus conséquente au chapitre intitulé « U et abus du contre-transfert » d'Anna Segal. Je constate que je l'ai très peu cité dans l'article, alors que pour moi il est tout à fait parlant. Un chapitre de son livre « Psychanalyse clinique ». C'est un article très bionien dont je me sens très proche quand elle écrit par exemple « J'ai trouvé plus facile de penser le transfert contre transfert dans les termes du modèle bionien de contenant et de contenu. Le patient projette dans l'analyste des parts non assimilées, non élaborées de son monde interne, comme Bion le décrit du bébé projetant les éléments bêta à l'intérieur de la mère. L'analyste a, à leur égard, une réponse en termes de ressenti, mais il en a aussi une compréhension et la contenance se constitue de cette compréhension. Je rapporterai aussi sa conclusion. Le contre-transfert est un indice, le matériel doit toujours être compris. Nous devons toujours nous rappeler que le contre-transfert est le meilleur des serviteurs, mais il doit rester un serviteur car il est le pire des maîtres. Encore un mot pour terminer. Ce que je n'ai pas fait, c'était déjà trop long comme article, et on a dû couper et couper, et que j'aimerais écrire maintenant, ça serait comme un dictionnaire amoureux du contre-transfert. Vous connaissez cette collection d'ouvrages où les auteurs font des choix complètement subjectifs. Il n'y a qu'à voir le dictionnaire amoureux de Roudinesco, de la psychanalyse. C'est ce que j'aimerais faire, alors peut-être pas un livre, mais un deuxième article, en présentant les hypothèses des auteurs qui m'inspirent le plus sur cette question du contre-transfert et en repartant notamment du chapitre de Salomon Resnick dans son ouvrage « Personne et psychose » de 1973, auquel j'aimerais vraiment rendre justice aujourd'hui, au-delà de ce que j'en ai écrit dans ce texte-ci.
Merci.
Je vais trouver ma page.
Bien voilà qui, je pense, vous a inspiré un certain nombre de réflexions.
Bon, d'abord, j'ai admiré le texte, surtout, qui est très dense, qui est très étayé théoriquement, un texte très intéressant. Et en fait, en réalité, je me suis intéressé davantage à l'approche qu'a Claudine Blanchard-Laville de son intervention dans les groupes, parce qu'elle n'est pas si classique que ça. C'est plus que le contre-transfert. J'étais sensible au parallèle avec Baline quand même, quand vous dites le contre-transfert professionnel des participants sans que les transferts à l'égard de l'animateur dans l'équipement de la séance soient travaillés. Mm-hmm. Moi, c'est Baline, en effet, qui utilise probablement les transferts latéraux d'ailleurs, hein, et le contre-transfert professionnel, c'est intéressant, mais qui n'intervient pas trop d'ailleurs sur. Il ne met pas en exergue son contre-transfert, de même que Baline, d'ailleurs, ne s'intéresse pas particulièrement à la dynamique de groupe. Mmh. Hein, c'est assez...
Moi non plus.
Pardon ?
Moi non plus.
Oui, c'est ça qui est... Voilà, il y a une proximité qui n'est pas si banale dans le travail. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est votre façon d'intervenir. Donc, avec une personne, on centre sur une personne qui raconte un événement, un incident professionnel. Je pose la question. Alors, en même temps, je veux bien comprendre ce que vous faites. Et les autres se prononcent, évoquent un peu ce que ça leur fait par association. Hein. Et au fond, on passe de l'un à l'autre, comme ça, avec une centration sur l'individu à l'intérieur du groupe, sans s'intéresser à la dynamique du groupe, tout en s'intéressant au processus associatif groupal. Hein. Mmh. Voilà. Alors, ça me parle parce que j'aime bien faire ça aussi. Me centrer, demander à. Quand je fais des groupes de supervision ou d'analyse de pratique à des gens d'écrire un petit incident critique. Oui. Chacun l'a lu. Alors, moi, chez moi, donc, chacun a lu le texte avant. Mmh. Et ils échangent après. Et donc, ce processus associatif est le plus intéressant. Et les mouvements transférentiels et contransférentiels vis-à-vis de moi sont secondaires entre eux, donc la facilitation est de faire en sorte que eux-mêmes puissent échanger et qu'ils aillent assez profondément dans ce qu'il en est de leur mouvement personnel, que je, au fond je facilite. Je pense que vous faites un petit peu pareil. Et donc il faut se mettre entre parenthèses et faire en sorte que nos propres mouvements contre-transférentiels soient contenus, compris, mais ne viennent pas polluer, je dirais, le travail psychique qui est effectué par les membres du groupe. Donc on a souvent un paradoxe, c'est que ces groupes fonctionnent bien. On me dit toujours, bah, tes groupes, il n'y a jamais de problème dedans. Non, mais il n'y a pas de problème parce qu'on est centré sur une activité, ce qu'ils font, c'est professionnel. Et ça, c'est ce qui médiatise, je pense, la conflictualité, c'est-à-dire qu'on a un objet et on me dit pourquoi il n'y a pas de conflit dans les groupes, parce qu'on travaille sur un objet qui résonne pour les uns et les autres, et l'objet c'est le travail. C'est un peu ce qu'a fait Gérard Mandel aussi, en focalisant à fond sur le travail. Il dit que quand on est centré sur l'activité, sur le travail, il y a moins de conflits interpersonnels. Je partage tout à fait cet avis, parce que là on est obligé de comprendre ce qu'il en est. Et on a un objet qui est un objet médiateur et en même temps qui donne lieu à des résonances psychiques très particulières. Donc là, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est cette façon de faire où les individus, une centration sur l'individu, c'est vous qui centralisez beaucoup. Alors c'est là-dessus peut-être que je vais vous interroger davantage. Jusqu'où va cette centralisation que vous faites De temps en temps, j'avais l'impression que la centralisation peut contraindre peut-être un peu les échanges.
C'est sûr.
Non, c'est sûr, oui. Je me disais, bon, jusqu'où et comment, j'aurais aimé comprendre ça. Comment la centralisation va contraindre les échanges, pour le meilleur, j'imagine. Hein. Ça vient de votre expérience. Il dit que c'est très important d'arrêter, sinon ça peut partir dans tous les sens, j'imagine. Et je voulais vous interroger d'abord là-dessus, je dirais. Donc, pourquoi cette centralisation à ce point-là et d'où ça vous est venu finalement? Est-ce que c'est par rapport à Balint, par rapport à toute l'accumulation de votre expérience que vous procédez par cette centralisation qui laisse à penser un peu.
Je réponds tout de suite ou...
Oui, j'aimerais bien avoir votre avis.
Alors, centralisation, oui, absolument. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont pu participer et qui savent que c'est extrêmement important dans le dispositif que je propose. Alors, il y a plusieurs étages. Il y a ce que je dis dans le texte, c'est que je pense que je conduis une clinique en groupe et pas une clinique de groupe.
Oui, hein. D'accord,
et
oui.
Donc forcément je suis très, très influencée par mon travail avec Salomon Resnick puisque j'ai participé pendant 17 ans à des groupes thérapeutiques avec lui où il était l'analyste et nous étions les patients en groupe et il n'y avait absolument pas d'analyse en termes de dynamique groupale. Hein. Donc je pense que là j'ai une influence forte et que j'ai repris ça de manière confuse au départ et progressivement je l'ai conscientisé, réalisé et puis essayé un peu de le théoriser. Ce que j'écris dans le texte c'est que ce qui m'importe c'est justement que vous disiez les échanges entre eux. Pour moi qu'il n'y a pas d'échange entre les participants. puisque ce contre quoi le protocole s'inscrit, c'est contre un échange de type scientifique, discussion, débat. C'est au contraire centré sur la personne qui apporte le récit, et toutes les hypothèses sont proposées à la personne, toutes les associations sont proposées à la personne qui réagit ou pas, qui résonne. Donc c'est extrêmement centralisé sur la personne. Et évidemment, ça passe par moi dans les premiers temps pour instituer cette manière de faire, et en tout cas pour la garantir quand ça pourrait ne pas fonctionner. C'est-à-dire toutes les questions, les hypothèses sont proposées à la personne et qui a tout loisir de rebondir ou pas. Alors la deuxième justification que j'ai donnée dans le texte et que j'ai comprise progressivement au fil du temps, c'est que ça ne devienne pas donc une conversation, mais au-delà de cela, peut-être vous avez vu que dans le texte, j'insiste sur le fait que je nomme la personne qui vient de parler et la personne à qui c'est adressé. C'est-à-dire ce passage par moi, il est d'une certaine manière pour bien maintenir la parole de chacun et la parole de chacun. La parole de la personne qui contribue, c'est la sienne, elle a tout à fait le loisir et le droit de prononcer cette parole. Par contre, la personne à qui elle est adressée a aussi le droit de ne pas répondre et de ne pas rebondir. Et donc, j'ai compris progressivement qu'il y avait quelque chose d'extrêmement contre-transférentiellement important pour moi, de protection de la parole de chacun, et que chacun, chacune dans le groupe peut énoncer une parole et non pas juste une parole vraie. Et ça renvoie forcément à toute mon histoire, et c'est pour ça que j'ai parlé d'une contre-attitude qui s'est transformée en protocole théorisé, mais sûrement une contre-attitude de ma part pour être dans la qualification de la parole de chacun et dans le soin pris pour la parole de chacun. C'est comme ça que je le dirai aujourd'hui, que j'arrive à le penser aujourd'hui. Sûrement, dans quelque temps, il y aura d'autres... J'ai eu, à un moment donné, une explication aussi en termes de contre-transfert, me disant, oui, je veux retrouver l'harmonie familiale. Bon, j'étais dans d'autres réflexions un peu plus ordinaires, je pense. Je crois davantage à cette sorte de contre-attitude dont je n'ai pas été du tout consciente au départ, et qui est maintenant tout à fait élaborée et, à partir de la conscience que j'en ai, assumée, totalement assumée, revendiquée. Voilà, je dirais, bon, jusqu'à la prochaine découverte.
Autrement dit, vous privilégiez l'aide à la personne qui présente plutôt que les résonances.
C'est à partir des résonances de tout le monde, mais c'est privilégié pendant le temps. On donne le trois quarts d'heure, une heure à la personne qui a présenté sa situation. Oui.
D'accord. Donc je dis ça parce que je fonctionne un petit peu différemment.
Oui, bien sûr.
Une résonance, un cas est évoqué par la personne et finalement les gens associent souvent, ils se disent tiens, moi ça m'est arrivé comme ça,
voilà,
etc. Mais là, vous allez plus le centrer pour aider véritablement la personne, pour éviter des déviations un peu narcissisantes chez certains qui veulent...
Oui, ou bien ne pas changer de situation en cours de route.
Oui, c'est ça.
Et rester vraiment centré pour que la personne puisse avoir des hypothèses, ou en tout cas, peut-être, à un moment donné, un insight sur « Ah, tiens, c'est ce que j'ai fait, je ne pensais pas avoir fait ça. » Voilà. Donc, on est en recherche de contribuer pour l'aider à avoir des insights sur cet incident qu'elle rapporte.
Alors, moi, il me semble que c'est ce genre de dispositif qui est très cadré, finalement.
Très cadré.
Qui pose moins de problèmes contre-transférentiels. C'est l'hypothèse que je fais. Je ne suis pas sûr, hein, mais je plus il y a un cadrage, plus...
Pour l'animateur.
Pour l'animateur et pour les personnes, il me semble que Le cadrage a cette fonction souvent de faciliter finalement la compréhension. La contenance est très importante et par conséquent,
oui.
Le fait de pouvoir centraliser et revenir au cadre à certains moments mm-hmm. est légitime en général, est légitime et donc on se sent plus à l'aise de pouvoir le faire que de se dire tiens, mon mouvement personnel est problématique, mm-hmm. il me semble.
Mm-hmm.
Il me semble.
Oui.
Et donc je dis ça parce que je crois que je suis très sensible au dispositif. Je veux dire, pour moi, c'est la clé. Quel dispositif, dans lequel va-t-on être à l'aise soi-même? Quel est l'objet du dispositif? Qu'est-ce qui permet? Qu'est-ce qui l'empêche?
Bien
voilà.
sûr. Ouais.
Donc, pour moi, c'est crucial. Donc là, vous avez un dispositif, je comprends assez bien, qui est bien cadré et qui doit donc être clair pour tout le monde et probablement diminuer l'anxiété, je dirais, à l'intérieur des groupes, puisqu'il y a un objet précis. Évidemment, c'est pas, hein, ça n'ôte jamais les mouvements d'anxiété réels, mais je pense que le cadrage, là, est très important. Et ça me frappe par rapport à ce serait la différence avec le cadrage de Bion, qui, à mon avis, lui, dans l'expérience qu'il a faite, ça a donné des choses extrêmement complexes, compliquées, et l'expérience qu'il a menée est d'ailleurs considérée comme un échec massif à Northfield. Bon, mais parce qu'il a découvert quelque chose, il a initié ce qu'il en était de la compréhension des processus psychiques groupaux, mais sur le plan de l'efficacité, à mon avis, médiocre. Alors que, parce que c'était très difficile de mettre des gens, des soldats qui revenaient de la guerre, habitués à une autorité classique et les mettre dans un dispositif complètement différent. Là, l'anticipation de Bion, c'était une anticipation de chercheur, mais ce n'est pas une anticipation de clinicien qui va comprendre ce qui va se passer quand on met les personnes en groupe comme ça dans cette situation-là. D'où la possibilité pour lui de théoriser quelque chose qui était, à mon avis, le produit de son dispositif. C'est-à-dire les hypothèses de base, dépendance, attaque, fuite et couplage, qui sont largement prévisibles étant donné le dispositif qu'il a envisagé et difficilement généralisable à mon avis.
Tu vas dire quelque chose.
Un peu utile de temps en temps quand même.
Oui, mais j'ai tellement vu de gens se raccrocher, essayer dans les groupes, à essayer de trouver où était le couplage, où était l'attaque-fuite.
Oui.
Complètement à côté du matériel que j'ai fini par comprendre.
Mais ça reste quand même
éclairant. C'était fétichisé, quoi.
Ah oui, voilà. Mais ça reste quand même éclairant. Par
dans des situations,
oui.
Dans les situations où il y a une centralisation, car ça ne fonctionne pas avec des groupes coopératifs.
Mm-hmm.
Et ça rejoint ce que disait De Jour de Freud. Au fond, Freud, il a travaillé sur des groupes extrêmement centralisés, c'est-à-dire l'Église et l'armée, et donc on n'a rien sur la coopération. Donc, dans des groupes coopératifs, les hypothèses de base de Bion, je me souviens d'une personne qui était venue du Tavistock, justement, essayer de faire un petit exercice, mettre une tâche de groupale auprès de trois groupes, et puis de leur dire, bon, maintenant, vous allez essayer de faire cet exercice, font l'exercice. Et après, elle explique les théories de Bion et les hypothèses de base, et elle a demandé à chacun des groupes quelles étaient les hypothèses qui avaient fonctionné. Il y a une grosse déception parce que les gens ont dit il n'y en a aucune. Mais ça a bien marché, on était très contents. Donc, interprétation de cette psychanalyste, bon, vous avez eu affaire à des groupes défensifs. Et là, ça m'est resté, je veux dire, non, ce n'est pas des groupes défensifs, c'est que quand on met une activité au cœur et que les gens s'organisent, donc groupe de travail opérationnel, vous n'avez pas trouvé nécessairement des hypothèses de base. Non, non, c'est plus compliqué que ça. C'est pour ça que je suis très sensible au dispositif. J'étais intéressé par le vôtre, qui, je crois, a un objectif précis, cadre bien, et doit aider énormément les personnes, en effet, puisque la centration sur une personne avec les difficultés qui permet de recueillir quand même les propos des autres par le questionnement. Et ce qui est très intéressant, c'est que les questions qui sont posées, évidemment, elles-mêmes... font réfléchir énormément la personne qui a présenté, j'imagine. Ce sont ces questions-là qui qui ne sont pas neutres et qui protègent les personnes qui les posent. Donc, c'est ce que vous dites.
Oui.
Vous protégez également les c'est personnes ça. Qui les posent mmh. et en essayant mmh. qu'elles, mmh. qu'elles maintiennent un intérêt authentique oui. pour la, la mmh. personne qui vient de présenter. Donc, il y a derrière une morale aussi citoyenne, on pourrait dire.
Oui. Une éthique citoyenne. Oui, c'est vrai. Je l'ai quelquefois écrit, oui. Démocratique et citoyenne, oui.
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 Voilà, donc j'étais sensible aussi à cette distinction que vous refaites de ce que dit Questembert entre les contre-attitudes et le contre-transfert. Et en fait, votre objectif, que je partage tout à fait, qui est le développement du soi professionnel. Je crois que c'est ça. Hein.
Oui.
C'est le soi professionnel. On travaille pour accroître la compétence professionnelle, mais la connaissance de soi, pas un soi qu'on travaillerait en thérapie ou en analyse, mais qu'on travaille là par rapport oui. à un métier.
Oui.
Et ça, c'est très important, je crois. Parce que la confusion existe souvent entre les groupes thérapeutiques et les groupes d'analyse de pratique ou les groupes professionnels. Et c'est très, très difficile de faire souvent la distinction entre les approches thérapeutiques et finalement une clinique professionnelle.
Tout à fait. Si Gérard était là, il dirait que j'ai un fort tropisme, enfin j'ai une boussole sans doute, pour... travailler le lien entre le professionnel et le personnel. Je suis complètement arrimée à cette boussole, c'est-à-dire on travaille le soi professionnel en faisant des détours sur l'histoire personnelle, mais on est totalement arrimée à la question professionnelle.
Ça me parle beaucoup parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur la résonance psychosociale et comme j'ai été thérapeute, je ne fais pas la confusion entre le travail thérapeutique et la posture professionnelle. Donc, dans les groupes, en effet, lorsque les personnes vont peut-être trop sur l'histoire, je ramène pour dire en quoi ça éclaire,
voilà.
en effet, la situation professionnelle. Sinon, le dérapage va vers la thérapie, et là, on ne sait plus tout à fait ce qu'on fait, et c'est délicat. Donc, je dirais que j'étais intéressé de voir la proximité que j'ai avec vous et la référence à Balint qui je crois est très importante et Balint c'est curieux de voir que ces personnes là qui ont joué un rôle important ont été marginalisées dès qu'on s'est intéressé à la profession, à l'activité, ces gens là ont été marginalisés dans leurs institutions psychanalytiques. Ça a été le cas un peu de Balint qui n'a pas été un peu marginalisé, ça a été le cas de Mendel et on en trouverait d'autres. Ces gens-là sont marginalisés parce que c'est pas complètement, ils n'utilisent pas le transfert comme on devrait, etc. Et pourtant, ils jouent un rôle, ils sont des grands cliniciens qui s'inspirent dans leur pratique clinique pour faire un travail très important. Donc on pourrait faire la liste de toutes ces personnes qui sont des cliniciens innovateurs qui ont été marginalisés quelquefois par leur société pour avoir voulu... faire un lien avec la réalité sociale. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir dire plus de par rapport au contre-transfert. Cette partie qui m'a beaucoup intéressé.
Mais peut-être que dans la salle, il y a aussi des réactions.
Je veux dire que c'est la même chose pour l'article de Mme Gavarini, qui est extrêmement bien écrit. C'est des articles. Et là, je tire mon chapeau pour la revue Cliopsie aussi et pour
Merci.
Les auteurs.
On y travaille.
Des interventions, éventuellement bien. Parlez fort.
C'est là que le cadrage, à mon avis, est très important.
On peut peut-être dire aussi quelque chose là-dessus.
Je pense que c'est même un peu ça. Et il me semble, hein,
pour moi, c'est une éthique très importante de ne pas tomber dans le...
Je sais que c'est utile, mais je pense que
c'est pas pour ça. Ben, je pense que c'est à l'animateur ou à l'animatrice d'être très clair sur sa visée et sur l'espace tel qu'il l'instaure et justement sur l'objet du dispositif. C'est-à-dire, si je conduis un groupe thérapeutique à visée personnelle, c'est pas la même chose que si je conduis un groupe d'analyse clinique des pratiques. Donc la visée n'est pas la même.
Mais pour la personne qui expose son souci professionnel, c'est peut-être thérapeutique.
Ah oui.
Ah, qu'il y ait des effets thérapeutiques.
Oui, ça c'est sûr.
Tout à fait d'accord, oui. Mais moi, ma boussole, c'est chaque fois de revenir à la situation professionnelle de manière à ce qu'il y ait un dégagement vis-à-vis de la situation professionnelle apportée. Pour laquelle il y avait un embouteillage, une entrave, quelque chose qui ne s'était pas bien passé, et donc qu'il y ait un dégagement de ce côté-là. Et donc un dégagement à plus long terme, si la personne travaille plus longtemps, pour un peu appréhender le type de réponse automatique qu'elle va se trouver en train de donner à chaque fois à cause de son scénario intérieur profond qui lui fait répondre de manière compulsive à des situations qu'elle croit différentes et de la même manière. Donc ça, c'est sur la longueur qu'on peut apprendre à avoir quelques lueurs, quelques insights sur ces modalités de fonctionnement et ces modes de réponse, ce que Balint appelait les patterns de réponse. Mais après, si la personne se sent très en souffrance, il est possible de dire... bon, là, cette question peut-être dépasse le cadre professionnel, et à ce moment-là, il faut peut-être envisager une autre démarche dans un espace où la visée sera davantage au bénéfice de votre vie privée, personnelle. Donc là, c'est vraiment la position de l'animateur et la clarté de ses objectifs, de la visée, et ensuite de le soutenir par le cadre. Moi, je ne laisse pas une situation dériver sur le personnel sans revenir régulièrement au moment professionnel qui a été proposé. Et comme le disait Gilles, comment ça éclaire ce moment qui a été proposé? Comment on peut le comprendre? Maintenant que vous nous avez fait partager telle et telle chose, comment on peut comprendre? Ah, on a une autre version de ce que vous aviez amené au départ. Et progressivement, la version change et on peut espérer un dégagement, en tout cas local, par rapport à la situation apportée.
Bernard ?
Je voudrais remercier Claudine et Gilles également. Non, c'est le bon esprit que tu n'as pas souhaité en parler à propos de ton article, mais puisque des questions pour les personnes rares qui n'ont pas lu les textes, moi j'étais aussi très intéressé par ce que tu écris sur la prise de notes justement, les prises de notes, les modalités, parce qu'à ma connaissance dans les animations de groupe clinique et en recherche, il y a peu de travaux sur la place particulière de ces écrits, qu'on anime seul, qu'on anime en binôme, est-ce que c'est une écriture pour être publiée ou pour une recherche, est-ce que c'est une écriture d'animateur-formateur, moi je sais que j'ai beaucoup apprécié, et je le relis, je ne sais pas si toi tu le ferais, avec ce que tu as cité tout à l'heure, le contre-transfert est inconscient. Si on travaille dans l'après-midi, on ne s'arrête pas à la séance. Il me semble que ce statut des écritures que tu proposes est pour nous, enfin, qui travaillons dans ce champ, ça serait une piste à venir, très précise que tu soulèves. Quoi. Voilà.
C'est-à-dire que, si on peut le résumer, ma position, c'est que si je suis dans une démarche de recherche et que je imagine que je vais utiliser... des moments de séance pour une recherche en cours ou à venir, la prise de notes après coup est absolument nécessaire parce que la seule mémoire ne permettra pas après, c'est des traces absolument insuffisantes pour la recherche, ça je crois qu'il faut soutenir ça. En revanche, pour la conduite clinique du groupe, je n'ai pas besoin de notes écrites. J'ai quelquefois besoin de notes orales sur quelques éléments factuels de ce qui a été travaillé, Parce que quelquefois les séances sont espacées beaucoup et que quand on a plusieurs groupes, c'est compliqué. Mais pour la conduite clinique, la mémoire clinique suffit pour moi à conduire le groupe. Et c'est là où effectivement les préconisations de Bjorn sont intéressantes, parce que c'est intéressant d'être à chaque séance comme un peu à neuf, c'est-à-dire prêt à... C'est nouveau. La personne, elle est nouvelle, je ne la connais pas. Et on va attendre ce qu'on ne connaissait pas encore, et c'est ça qui nous intéresse. Moi, je suis à l'école de Resnik, où il disait ce qu'on sait déjà, en gros, on s'en fiche. C'est ce que je ne sais pas encore. Alors, on y va. Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Qu'est-ce que je ne sais pas?
En même temps, ta nouvelle formulation
des
propos de Bjorn, débarrassez-vous de vos souvenirs, c'est très différent de la traduction de Benica Horowitz. Débarrassez-vous de vos souvenirs, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait.
Non, ben non.
Ah,
mais ça, c'est la traduction.
C'est une vraie question.
Non. On en a malgré tout des souvenirs. Et donc, l'idée, c'est congédier vos souvenirs, c'est-à-dire, c'est pas utile et ça risque même d'être entravant.
C'est-à-dire qu'on voit bien les deux extrêmes. Des gens qui sont complètement mobilisés et paralysés
oui.
par leurs souvenirs précis.
Mais oui.
Mais des gens qui n'ont pas de souvenirs.
Oui. Bon, on les connaît. Philippe a beaucoup de souvenirs et très précis. Et moi, je refoule beaucoup. Et donc, ça me sert, bien sûr, d'être beaucoup dans le refoulement. Ça me sert, donc j'ai moins de souvenirs précis, mais néanmoins, je ne suis pas complètement amnésique, et donc il y a quand même des choses qui sont plus embarrassantes qu'utiles pour laisser advenir du nouveau, être ouvert à, comme il le disait, tiens, il y a une personne que je ne connais encore pas, il va y avoir une nouvelle idée... Et je veux être prête à l'accueillir. C'est une tension, c'est pour ça que je parle d'asymptote. Hein. Ce n'est pas vraiment réalisable absolument.
Hein. Une personne que je ne connais pas, elle n'existe que parce que j'ai une représentation d'une personne
non,
que je connais.
Mais non, elle existe parce que émotionnellement, dans la rencontre, j'ai une réaction.
L'inconnu ne peut se définir que par rapport au connu.
Après, elle s'inscrit dans l'histoire de toute ma vie et de la personne que je suis d'accord. Bjorn aussi était une personne, mais voilà. Comment appréhender le fait que là, il y a une personne et comment je la rencontre, l'effet de présence. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça.
Bon, vous imaginez les conversations et les controverses dans le groupe arabe. Je suis en train de voir que si nous voulons reprendre à 14h, il faut vraiment qu'on s'arrête pour que vous puissiez avoir le temps de manger. Merci à tous pour votre qualité d'attention. Et donc on s'efforce d'être là pour 14h et redémarrer vraiment à 14h. Vraiment très très intéressé. On sent que est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent rester dans la salle? Il n'y en a pas. Donc on ferme les gueules, on ferme
Thank you.